Les infos du Proton.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est le Proton se rebiffe. Et ce soir, le Proton se rebiffe va parler d'un drôle de sujet, un petit peu inattendu quand même sur Radio Libertaire, il faut bien le dire, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de Jeanne d'Arc? Eh bien, parce que je suis tombé sur un livre qui s'appelle « La fabrique de Jeanne d'Arc » aux éditions Atland. C'est par M. Thierry Dehay, de D-E-H-A-Y-E-S. Ça coûte pas cher, ça coûte 19 euros. Et c'est un très drôle de livre qui nous permet de reconsidérer à la fois l'histoire réelle, le peu qu'on en sait, et le mythe de Jeanne d'Arc. Et puis on parlera également d'un autre livre sur Jeanne d'Arc. L'exemplaire que j'ai, moi, il est en anglais, mais je pense qu'il a été traduit en français. C'est de Marina Warner. Marina Warner est une écrivaine et historienne britannique qui a fait toute une série d'excellents livres sur les femmes et l'image en particulier de diverses héroïnes féminines. Et en particulier, donc, un livre sur Joan of Arc, The Image of Female Heroism, Jeanne d'Arc, l'image de l'héroïsme féminin, en anglais, c'est sorti à University of California Press. Alors, pourquoi va-t-on parler de Jeanne d'Arc? Eh bien, parce que Jeanne d'Arc, ça nous donne un exemple relativement lointain dans l'histoire, mais par conséquent très intéressant, de manipulation d'une vie et par laquelle on va créer un mythe. Et ce qui est fascinant avec Jeanne d'Arc, c'est que il y a des tas de gens qui ont essayé de créer un mythe de Jeanne d'Arc, et puis elle s'est avérée une figure tellement polyvalente, tellement hors norme, qu'il y a plusieurs mythes de Jeanne d'Arc qui ont été créés. Alors, pour comprendre toute l'histoire de Jeanne d'Arc, il est absolument indispensable de comprendre d'abord la situation politique dans laquelle elle va intervenir. Et la chose principale dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a un roi dans l'histoire de France qui est Charles VI, et Charles VI, il a un petit problème, il est complètement fou. Alors, complètement fou, justement, c'est pas vrai, il n'est pas totalement fou, mais il a des épisodes qui peuvent parfois durer longtemps, de délire, d'inconscience, de folie. Et évidemment, c'est très handicapant, et ça va poser un problème. Parce qu'il a une femme, Isabeau de Bavière, et Isabeau de Bavière, elle n'a pas spécialement envie de rester seule, hein, entre gros guillemets, quand son mari est en plein épisode de folie et qu'il est infréquentable. Et il va se passer qu'elle va avoir des enfants dont on va penser qu'ils ne sont pas de Charles VI. Et en particulier, c'est quelque chose qui va rester comme un poids sur Charles VII. On va souvent penser qu'il n'est pas le bon fils de Charles VI. Alors en plus, Charles VI, il fait quelque chose de pas bien du point de vue de la monarchie française en 1420. Il signe le traité de Troyes. Alors, nous avons tous oublié ce que c'était que le traité de Troyes, moi aussi, mais je me suis renseigné. Et le traité de Troyes, eh bien, il dit deux choses très embêtantes. Il dit d'abord que son fils Charles VII, eh bien, n'a pas droit à la couronne, donc il déshérite de la couronne Charles VII. Et il dit que le prochain roi de France, donc après lui, sera son gendre, le roi d'Angleterre, Henri V. Ah ben zut alors. Et en 1422, histoire de compliquer la chose, tant Henri V d'Angleterre et Charles VI de France meurent. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste un roi d'Angleterre qui est un enfant de 10 mois, Henri VI. Et puis, il nous reste le dauphin, Charles VII, mais qui est accusé d'être illégitime par les Anglais et leurs alliés, les Bourguignons. Et la situation militaire est absolument catastrophique, parce que, en gros, il ne reste plus qu'un tiers de la France à être à peu près hors de la possession des Anglais, et en particulier, les Anglais mettent le siège à une ville où, évidemment, vous allez réagir, Orléans. Orléans, qui était la dernière ville de France au nord de la Loire, en possession de Charles VII. Et c'est là qu'arrive tout d'un coup cette demoiselle Jeanne d'Arc, qui libère Orléans, qui donne un incroyable coup de fouet au moral des armées françaises et qui va permettre la libération, non pas totale, mais vraiment très majoritaire, de la France. Donc c'est à partir de Jeanne d'Arc que tout d'un coup la guerre de Cent Ans va aller vers une victoire française et non pas vers une victoire anglaise. Seulement voilà, le bon Charles VII, qui donc va être sacré roi à Reims par Jeanne d'Arc, d'abord on continue à avoir ce soupçon qu'il est un bâtard, qu'il n'est pas le bon roi, et avec ce soupçon, bien entendu, ça veut dire que les grands seigneurs, tout un tas de grands féodaux, voudraient bien le foutre dehors, exactement comme plus tard avec la Fronde, avec Louis XIV. Et donc, ça l'embête quand même, Charles VII, d'avoir été sauvé par une femme. Une femme. Alors, en plus, une femme que les Anglais ont déclarée, avec un procès ecclésiastique, ont déclaré avoir été une sorcière. Donc, pour Charles VII, il va être politiquement extrêmement important de transformer Jeanne d'Arc enceinte. Et évidemment, dans l'intervalle, qui était cette Jeanne d'Arc au départ, qui était vraiment réellement ? Alors, le premier problème qu'on a avec Jeanne d'Arc, c'est quand est-ce qu'elle est née ? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, eh ben c'est pas compliqué, elle est née en 1412. Il y a des gens qui disent, ah non, elle est née en 1407. Et puis il y a tout un tas de gens qui donnent tout un tas d'autres dates. Et le problème, il est très simple, c'est qu'il n'y a pas d'état civil à l'époque et qu'on n'a pas de registre de baptême qui pouvait servir éventuellement. Et donc on ne sait pas très bien. Alors la date de 1412 est celle qui est la plus acceptée, mais dans le livre de M. Deshaies, eh bien, elle est extrêmement contestée. Il ne prend pas position. Mais il dit, voilà, toutes ces dates ont des arguments dans un sens ou dans un autre. Le moment le plus important du point de vue, enfin, le départ, on va dire, de l'épopée de Jeanne d'Arc.
Une simple question, je voulais savoir si, pourquoi finalement cet auteur est... a choisi 1900, pardon, pas 1900, mais donc en 12, on va dire. On veut dire donc pourquoi il a choisi cette date-là ?
Ah non, justement, il est neutre de ce point de vue-là. Il explique que comme il y a des probabilités dans un sens et dans un autre, et que principalement cette date de 1412, elle vient du fait que dans le premier procès de Jeanne d'Arc, on va dire que Jeanne d'Arc avait 19 ans. Mais ce n'est pas Jeanne d'Arc elle-même qui le dit, ce sont ses accusateurs. Alors qu'elle ait 19 ans, qu'elle soit un peu plus vieille, ça ne change pas beaucoup de choses. Elle était quand même à l'évidence, bien entendu, une très jeune femme. Mais on n'a pas vraiment de solides preuves dans un sens ou dans un autre. Ceux qui disent 1407, il y a d'autres éléments qui leur font dire ça. Mais franchement, il n'y a pas vraiment d'incidence dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça que Thierry Deshaies ne prend pas tellement position. Alors donc, on en revient au moment où tout d'un coup... Jeanne d'Arc commence à entrer dans l'histoire, et il y a une date très précise, le 13 février 1429, et c'est là où elle quitte la ville de Vaucouleurs pour aller à Chinon. Chinon, c'est dans la Loire, Vaucouleurs, eh ben, c'est un peu au sud de la Lorraine, si je me souviens bien. Et le truc, c'est que, alors là, il y a une première bizarrerie, c'est que pour aller de Vaucouleurs à Chinon à cheval, il faut 11 jours. Alors on va y revenir plusieurs fois, parce que c'est quand même un peu épatant. Voilà une demoiselle qui officiellement est une bergère. Donc une bergère, on est au plus bas de l'échelle sociale au Moyen-Âge. Les chevaux, ça coûte extrêmement cher. Les leçons d'équitation, ça coûte extrêmement cher. Et l'idée que déjà un berger qui serait capable de monter un cheval pendant 11 jours, c'est déjà beaucoup. Mais alors une bergère qui peut monter un cheval pendant 11 jours, c'est encore plus dingue. Et puis il y aura encore d'autres choses être bizarre avec cette équipée. Toujours est-il que donc elle arrive à Chinon et que, alors à nouveau dans le mythe officiel entre guillemets, le roi fait exprès d'être difficile à reconnaître, mais elle va le voir directement, car elle est inspirée par Dieu. Et en même pas 2 ou 3 mois, la voilà qui devient chef de l'armée française. Alors, à nouveau, une petite bergère illettrée et qui est catapultée devant tous les chevaliers les plus machos possibles, mais qui ont même, pour le coup, pour l'époque, une compétence militaire tout à fait inattaquable.
C'est les 11 jours.
Pardon ?
C'est les 11 jours, elle a fait une formation accélérée.
Exactement. Ça a été c'était de la PNL. Et donc, mi-avril 1429, la voilà chef de l'OST, c'est-à-dire chef de l'armée. Et ça se passe extrêmement bien. Et, alors, on en reparlera plus tard. Elle est apparemment brillamment compétente en matière militaire, à tout point de vue, pour toutes les techniques de l'époque. Et dès le 8 mai 1429, donc en même pas tout un mois, eh bien, elle obtient la levée du siège d'Orléans, donc elle libère Orléans des troupes anglaises. Et puis en juin, eh bien, il y a d'autres victoires autour d'Orléans, donc la France, tout d'un coup, est en train de gagner. Et elle insiste pour prendre le dauphin Charles, donc il n'est pas encore Charles VII, il est juste le dauphin Charles, et lui dire « Mon coco, je t'emmène à Reims pour te faire sacrer ». Donc le 17 juillet 1429, elle assiste au sacre du dauphin Charles. Alors, entendons-nous bien, on le sait très bien ça, c'est un fait avéré, elle est à côté, littéralement, physiquement, à côté du roi sacré. À nouveau, pour une petite bergère, c'est un peu surprenant. Automne 1429, Charles VII reprend la main. Il commence à écarter un petit peu Jeanne d'Arc et on peut dire, c'est un peu exagéré, mais on peut dire qu'au printemps 1430, Jeanne d'Arc dirige une armée presque privée, avec beaucoup de volontaires. N'empêche qu'on lui a donné de l'argent. C'est aussi curieux, ça, c'est une bergère, on lui a donné beaucoup, 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 beaucoup d'argent, par lequel elle paye les dépenses de cette armée. Et le 23 mai 1430, pas de bol, elle est capturée à Compiègne, par les Bourguignons, donc les collabos de l'époque avec les Anglais. Et là, ils la vendent aux Anglais, puisque souvenons-nous à cette époque, eh bien, quand on réussit à faire prisonnier un chevalier, et plus encore un noble, et plus encore une personne de sang royal ou un roi, eh bien, il y a une histoire de rançon, donc ils vendent Jeanne d'Arc aux Anglais. Les Anglais sont ravis. Et puis, il va donc y avoir ce premier procès où ils vont accuser Jeanne d'Arc d'être une sorcière. Ce qu'on sait, c'est que donc le 30 mai 1431, officiellement, elle est exécutée, on va la brûler. Et là, on reviendra là-dessus, il va se passer juste après son exécution réelle ou pas réelle, on n'en sait trop rien, c'est qu'on va montrer à la foule, dit-on, un cadavre de femme nue pour que tout le monde soit bien sûr que c'est bien elle qu'on a brûlée, que c'était bien une femme et non pas un homme. Et ça, évidemment, c'est un point essentiel du mythe, puisque tout va tourner autour du fait que c'est une femme qui a accompli un travail d'homme. Peux-tu me baisser un peu le volume du casque, s'il te plaît ? Ah, Lulu. Lulu, elle te demande où est-ce que... Elle... Eh.
How much does a memory weigh? How much does a memory weigh? What's the price our bodies will pay? What's the price our bodies will pay? How feel like a burden as it gets harder.
C'était Leila Makala qui chantait Memory Song. On parle de mémoire, donc on parle de Jeanne d'Arc, on parle de mémoire un peu, disons, transfigurée, on va dire ça comme ça. Et je suis désolée, mais on n'avait pas coupé le micro de Jean-Manuel et c'est complètement, je suis complètement responsable. Donc vous avez entendu nos échanges en « attention, c'est trop fort, le casque, etc. » Donc ça prouve bien qu'on est en direct.
Donc, nous en étions à l'exécution sur le bûcher de Jeanne d'Arc et à ce fait bizarre qu'il a été dit qu'on a pris le cadavre et qu'on l'a montré, ce cadavre donc à ce moment-là nu, brûlé pour prouver que c'était bien une femme et non pas un homme, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Et puis alors, le livre là de Thomas Dehaye, La fabrique de Jeanne d'Arc aux éditions Atlante, affirme, il n'est pas le premier à le faire, mais il est sans doute le premier à le documenter de manière franchement précise. Il dit, en fait, ce n'est pas Jeanne d'Arc qui a été brûlée, et la preuve en serait qu'on la voit réapparaître dans des documents le 20 mai 1436, dans un village qui s'appelle la Grange aux Ormes, qu'en été 1436, elle se marie avec un monsieur appelé Robert des Armoises, que le 28 juillet 1436, eh bien, elle est reçue à Orléans, et où Orléans fait don de 12 000 livres à Jeanne des Armoises pour avoir fait quelque chose de très bien, pour avoir libéré la ville. Donc on voit effectivement difficilement qui ça pourrait être d'autre que Jeanne d'Arc. Et en octobre 1440, eh bien, elle paraît Jeanne des Armoises, et devant le Parlement de Paris, elle est mariée, elle a deux enfants, elle dit, elle confirme qu'elle a tué pendant la guerre, et elle serait morte, là l'auteur est très prudent, il dit elle serait éventuellement morte, le 4 mai 1449. Et puis là où on revient à quelque chose où personne ne conteste, eh bien, les deux procès de suite. Les deux procès, tout d'abord, en réhabilitation. Donc, ça commence en 1450 et ça se terminera en 1456. Et puis, un autre procès, entre guillemets, ce n'est pas un vrai procès, mais c'est tout le long processus de canonisation de Jeanne d'Arc qui va aboutir. Et là, je vais demander à Christiane. Christiane, sais-tu quand est-ce que Jeanne d'Arc a été canonisée ?
Non, je ne sais absolument pas. Et je me demande d'ailleurs, comment se fait-il qu'en montrant ce cadavre calciné de femme nue, d'abord, c'était pourquoi ? C'est pour qu'on la libère. Et puis pourquoi ce mythe n'a pas été, disons, désamorcé dès le départ ? Pourquoi est-ce que l'Église après s'en est emparée, etc. ? Puisque c'était d'abord une sorcière, c'est devenu une sainte. Quel était l'intérêt politique dans cette histoire ?
Alors, voilà. Première chose, donc le fait de montrer. Alors, elle a été canonisée en 1920. Ce qui montre que l'Église catholique était drôlement gênée aux entournures, on y reviendra, pour canoniser cette femme. Alors, le fait de montrer le cadavre, là, à nouveau, si ça s'est fait, eh bien, c'était pour bien montrer aux gens que ce leader militaire, dont l'existence ne faisait aucun doute, que ce leader militaire extraordinaire n'était pas un homme, malgré ses vertus affirmée comme masculine, que c'était bien une femme. Et que donc, c'était une sorcière, puisqu'il était impossible qu'une femme ait autant de courage et de technique militaire qu'un homme dans l'esprit de l'époque.
C'est ce que dit un peu ton auteur. Parce qu'il dit, elle ne peut pas, c'est quand même bizarre soit pendant 11 jours. Ensuite, pourquoi elle aurait des qualités militaires extraordinaires alors que c'est une femme et en plus de ça, une bergère. Il y a tout ça.
C'est là où ça devient intéressant, c'est que lui, l'auteur, il est heureusement pas du tout antiféministe. Et donc sa théorie, elle est extrêmement intéressante, mais on n'y était pas. Il dit, ça n'était donc pas une bergère, c'était probablement une bâtarde de Charles VI, envoyée à la campagne pour qu'on n'en parle pas trop, et qui aurait quand même reçu une éducation princière, ce qui pourrait expliquer qu'elle sache monter à cheval, qu'elle ait une connaissance des armes et du métier des armes qui était totalement inconcevable pour une bergère de l'époque, qui était rare évidemment pour une princesse, mais c'était beaucoup moins inconcevable de donner une éducation militaire à une princesse que à une bergère. Alors que pour les Anglais, l'intérêt des Anglais au fait de montrer que c'est une femme, c'est que comme là on est, pour eux, il faut absolument justifier le fait de la brûler, parce que si ça avait été un prince français, un mâle français reconnu, c'était pas bien. On était dans un monde où, à ce moment-là, ils auraient dû, à nouveau, revendre le prisonnier aux Français, demander une rançon. Ils le font pas. Donc, il y a un truc... Donc, pour justifier ça par rapport à leurs propres troupes, eh bien, il faut montrer qu'il s'agit d'une femme. Et on fait donc ce truc bizarroïde de montrer un cadavre de femme. Alors, pour en revenir au procès, il faut savoir que les trois procès qui ont lieu au Moyen-Âge, donc le premier procès pour déterminer que c'est une sorcière et les deux autres procès de réhabilitation, ce sont eux qui sont constitutifs du mythe, de la légende de Jeanne d'Arc, parce que c'est là où on entend Jeanne d'Arc parler. Mais bien entendu, par ailleurs, le premier procès est évidemment un procès du type procès stalinien où il s'agit de démontrer qu'elle est une sorcière. Et les procès en réhabilitation sont exactement tout aussi malhonnêtes, simplement dans le sens inverse. Il s'agit de démontrer qu'elle est une sainte. Alors en plus, un problème qu'il y a avec les procès, c'est que pour autant qu'on le sache, les procès se sont déroulés en français, mais les minutes qui en ont été prises sont en latin. Et on les a encore retraduites. Donc évidemment, il y a quand même là, pareil, évidemment, des possibilités de faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. Alors, il y a quand même des choses tout à fait étonnantes avec Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc en tout cas, dans l'idée qu'elle est une bergère. À la fois pendant le procès et selon les témoins des procès pendant sa vie militaire, elle parle à des gens très très élevés socialement, de manière extraordinairement autoritaire. Alors, évidemment, ça peut aussi être qu'elle est illuminée, qu'elle se dit « Dieu parle par ma voix ». Enfin, quand même, bien par exemple ceci. « Et elle dit à mon dit seigneur de Dunois telle parole ». Alors, Dunois, rappelons-nous, Dunois, c'est un autre grand commandant militaire. Il est le demi-frère du duc Charles d'Orléans, donc d'un gars de la famille royale, et il est le cousin germain de Charles VII. Donc c'est pas exactement, dans le monde du Moyen-Âge, n'importe qui. Et elle dit à mon dit seigneur de Dunois telle parole ou semblable, « Bâtard, bâtard, au nom de Dieu, je te commande que dès que tu sauras la venue du dit Falstaff, un anglais, tu me le fasses savoir, car s'il passe sans que je le sache, je te promets que je te ferai ôter la tête. » Pour une bergère, c'est quand même pas mal. Et elle continue avec d'autres grands chefs militaires ou grands fonctionnaires, on va dire. Et par exemple, à un moment, elle rencontre un gars qui est quand même le conseiller, le premier chambellan du dauphin Charles et bailli d'Orléans. Elle veut faire une sortie. Et puis il y a Gaucourt qui lui dit « Non, 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 il ne faut pas faire de sortie, c'est trop dangereux. » Et elle lui dit d'abord qu'il est un méchant homme, et elle ajoute « Que vous le vouliez ou non, les soldats iront et réussiront comme ils ont réussi ailleurs. » Et de fait, c'est ce qui se passe, la sortie est faite, et en plus, elle a du succès. Alors, ça, c'est donc... Et là, le comment dire... ce que dit D.L. là-dedans, je cite le passage, « Le merveilleux dans cette affaire n'est pas que Jeanne commande, mais c'est que tous lui obéissent. Dans la société hiérarchisée du XVe siècle, face à des grands seigneurs jaloux de leurs prérogatives, face à des princes de sang royal, la pucelle ne peut imposer cette autorité que parce que sa naissance le lui autorise. Si on considère que tous les capitaines du roi sont loin de croire à l'origine divine de sa mission, il n'y a aucune autre explication possible. » Bon, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune autre explication possible? À nouveau, on n'y était pas, mais enfin, c'est quand même un argument tout à fait intéressant. Alors, et également, alors, bien entendu, Thierry Deshaies va trouver dans les procès des tonnes de contradictions, dans les témoignages, ce qui n'a rien d'étonnant, à nouveau, pour des témoignages dans des procès de type complètement stalinien. Première chose, avec l'un des problèmes avec ce voyage de Vaucouleurs à Chinon, c'est que quand elle va partir pour Vaucouleurs, elle part avec une escorte. C'est-à-dire que dès le départ, cette prétendue bergère bénéficie d'une protection royale. Elle bénéficie d'un rendez-vous avec le roi. Alors, quand même, à l'évidence à l'époque, des prophétesses, des inspirées, des barjots qui voulaient sauver le royaume devaient en avoir, 15, 20, 30, 40, etc. Et que, elle, tout d'un coup, paf! Elle arrive à toute allure et que dès qu'elle arrive, eh bien, on l'écoute, c'est quand même extrêmement surprenant. D'ailleurs,
C'était Sushila Raman qui chantait Mama Vatu. Simplement une chose, puisqu'on est dans les femmes, on ne sait pas si ce sont des saintes, des sorcières. Je dois quand même... J'ai fait un petit... C'est une sorte de petit parallèle, parce que je me souviens que, par exemple, la Kaina, celle qui s'était défendue des invasions arabes, qui était une femme, une chef de clan, j'imagine, berbère, mais qui dominait dans les trois pays, Maroc, Algérie et Tunisie. Et elle, Kaina, d'ailleurs, ça veut dire en arabe, sorcière. Donc, c'était aussi une sorcière. Donc, vive les sorcières, quoi. Hein ?
On continue justement, on continue là-dessus. Incidemment, nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Et sans sorcière.
Jusqu'à présent. Et nous sommes toujours sur le Proton sur Rebif à discuter de Jeanne d'Arc en général et de ce livre de Thierry Deshaies, La fabrique de Jeanne d'Arc aux éditions Atlande. Alors, Thierry Deshaies nous rappelle aussi ceci, eh bien, c'est que les connaissances militaires de Jeanne d'Arc ont stupéfié tout le monde, en particulier s'il s'agit d'une bergère et non pas d'une princesse royale. Alors, un des témoins, par exemple, dit « Sur le fait de la guerre, elle en savait long, tant pour porter la lance que pour rassembler l'armée et mettre en place un dispositif, surtout en ce qui concerne l'artillerie. Chacun s'étonnait de l'avoir réglée tout ainsi avec la même sûreté et sagesse que si elle avait fait la guerre depuis 20 ou 30 ans. Surtout pour la mise en place de l'artillerie, à quoi elle s'entendait admirablement. D'autres témoins disent « Jeanne était fort instruite dans l'art militaire, bien qu'elle ne fût qu'une jeune et simple jeune fille. » Un autre dit « On disait qu'elle était singulièrement instruite en art militaire. » Même un capitaine nourri dans la guerre et très averti n'aurait pas été capable de se comporter aussi bien. Tous les chefs en étaient plongés dans la plus profonde admiration. Encore un autre, j'entendis le sire de Gaucourt et d'autres capitaines affirmer qu'elle s'y entendait fort au métier des armes. Tout le monde s'émerveillait de sa maîtrise. Alors là-dessus, non seulement effectivement... On voit difficilement comment une bergère, après tout une bergère, on peut imaginer qu'elle ait des dons de guerrière. Enfin, l'artillerie, ça ne s'apprend quand même pas au milieu des moutons. Et autre chose qui surprend, c'est qu'elle est capable de porter la lance à cheval. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, quand on est un chevalier, eh bien, ça veut dire qu'on a un bras qui porte le bouclier, l'autre bras qui porte la lance, donc on ne guide son cheval qu'avec sa position sur la selle et les étriers. Non mais ça ne s'apprend pas en 11 jours de chevaucher de vos couleurs à Chinon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, franchement, démolit beaucoup l'idée de Jeanne d'Arc, pauvre petite bergère. Autre chose qui démolit ce mythe, c'est que dans toutes ses réponses dans les procès, elle parle très bien. Elle est très intelligente. Alors à nouveau, il n'y a aucune raison pour qu'une bergère ne soit pas très intelligente. Seulement, elle est capable malgré tout de discuter théologie avec des évêques, avec des professionnels de la théologie, de discuter politique avec des professionnels de la politique de son époque. Et là, à nouveau, là, il n'y a pas seulement une question d'intelligence, il y a une question de savoir, de connaissance, qu'a priori, une bergère à cette époque ne peut pas obtenir parce qu'on la lui refuse, tout simplement. Également, autre chose, par exemple, il y a un témoin qui dit, c'est un témoin, c'est un guerrier, un chevalier, et un chevalier de haut niveau qui s'appelle Jean de Metz, de la ville de Metz. Il avoue qu'elle lui inspirait tant de respect, et là, excusez-moi, je cite le livre d'abord, qu'il a prêté hommage à cette jeune fille pauvre qui n'a encore strictement rien accompli d'un point de vue militaire. Là, il parle donc de avant qu'elle soit devenue le chef de l'armée. Et alors, moi, Jean, je promis à la pucelle, en lui donnant ma foi par une poignée de main, qu'avec Dieu pour chef, je la mènerai de vers le roi. C'est-à-dire que là, on en est au moment de la chevauchée de vos couleurs, et voilà ce gars qui dit à cette bergère qu'il veut devenir son homme liege, son vassal, ce qui est évidemment totalement incompréhensible s'il s'agit d'une bergère. D'autres témoignages disent que, par exemple, Jeanne d'Arc à Don Rémy, a pour habitude de faire l'aumône. Bergère qui fait l'aumône, où est-ce qu'elle trouve de l'argent ? À cette époque, les bergères, tout simplement, n'ont pas d'argent, n'ont pas de pièces de monnaie à donner. C'est déjà bien si elles arrivent à manger. Et le français de Jeanne d'Arc semble de très bon niveau. Alors là, évidemment, c'est un argument un petit peu moins probant, puisque, à nouveau, ses réponses ont été traduites en latin, puis retraduites en français. Donc il se peut que si éventuellement elle avait un mauvais français, ça a pu être corrigé. Autre chose qui est tout à fait étonnante, dans le mythe, elle ne sait pas lire. Manque de chance, plusieurs répliques dans son premier procès indiquent qu'en fait, elle sait écrire et elle sait lire, et qu'à un moment, par exemple, les juges lui posent une question un peu compliquée où il faut qu'elle se souvienne de ceci ou de cela. D'ailleurs, elle avait, pour d'autres réponses, elle avait une excellente mémoire. Et elle leur demande qu'ils lui laissent ces questions par écrit, de façon à ce qu'elle puisse y penser. Donc, par définition, c'est qu'elle qu'elle sait lire. Donc, tout ceci semble indiquer qu'on a quelqu'un qui, au strict minimum, ne pouvait pas être une simple bergère, et par conséquent, l'éventualité qu'elle ait été une bâtarde, par exemple, de Charles VI, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Thank you.
Radio Libertaire, eh bien, nous sommes dans le Proton se rebiffe. Et donc, vous venez d'écouter Boomcello qui chantait, enfin, c'est un morceau qui est joué avec de très jolies voix derrière. Ça s'appelle Death in Brest, c'est-à-dire Mort à Brest.
Alors, nous continuons donc avec notre récit, entre autres, du livre La Fabrique de Jeanne d'Arc par Thierry Deshaies aux éditions Atlantes. Et il faut tout d'abord rappeler les dates, souvenons-nous. 1429, c'est le sacre de Charles VII à Reims. 1431, c'est l'exécution réelle ou simulée de Jeanne d'Arc. Et nous avons ensuite, en 1450 jusqu'en 1456, deux procès en réhabilitation, décidés principalement par Charles VII. Et puis, ce qui se passe, c'est que, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, l'Église catholique est dans la panique parce qu'elle sent qu'on va séparer l'Église et l'État. Et d'un autre côté, eh bien, toute la France qui veut une république, elle sait que l'Église catholique est complètement contre elle, donc elle se sépare de plus en plus vite de l'Église catholique, et il y a donc un combat extrêmement virulent. Alors là-dessus, j'ai trouvé deux textes intéressants, écrits d'un point de vue à l'évidence différent. Premier texte, j'ai trouvé ça sur Hérodote, vous savez, là, une revue d'histoire. Honorée de son vivant par le petit peuple, Jeanne d'Arc a dû cependant attendre plusieurs siècles avant d'être également reconnue par les élites politiques et religieuses. D'héroïne nationale et populaire, elle est transformée en sainte au milieu du 19e siècle et béatifiée par l'Église catholique un demi-siècle plus tard, le 18 avril 1909. Je rappelle que la béatification, ça a lieu avant la canonisation. L'évêque d'Orléans, Monseigneur Félix...
C'est quoi la béatification?
Alors la béatification...
Excuse-moi, on est sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni même.
Alors, Christiane, je vais appeler le curé de ta paroisse et je vais lui dire, mon père, vous n'avez pas éduqué Christiane de la manière qu'il fallait.
Il n'a pas pu, je ne suis pas baptisée.
Ah bah zut.
Alors explique ce que c'est que la béatification et la canonisation.
Il y a trois étapes pour devenir un saint. Tout d'abord, on vous vénère parce qu'on trouve que vous êtes tout à fait respectable. Et puis, il y a une enquête qui est déclenchée. Et le premier niveau, c'est la béatification. Ça veut dire qu'on garantit que vous allez être, que vous serez en paradis. On dit, voilà, c'est sûr et certain. Si vous avez été béatifié, vous êtes en paradis.
Alors, voilà un autre mythe. Parce que normalement, tu sais bien que tous les pauvres et les malheureux vont directos au paradis, avec la big pie in the sky, hein, le gros gâteau dans le ciel, parce qu'ils en ont tellement bavé, etc.
C'est l'idée.
Donc, eux, ils sont automatiquement... donc, les pauvres sont béatifiés.
Voilà. Depuis quand est-ce que tu réclames que l'Église catholique ait un peu de logique? Christiane, s'il te plaît.
Donc, ils sont pris les pieds dans le tapis.
Ah, ils sont pris les pieds, mais alors dans les tapis. Il y en a une succession de tapis. Donc, une fois qu'on a été béatifié, alors là, les choses deviennent sérieuses officiellement. Il y a un procès. Et il faut, entre autres choses, prouver que la personne qu'on va déclarer sainte ou saint a exécuté des miracles. Donc, il faut des miracles. Et s'il y a suffisamment de miracles, alors à ce moment-là, crac, on peut devenir canonisé. Et donc là, on devient saint. Et dans le cas à nouveau de Jeanne d'Arc, ça sera donc en 1920.
Alors, ça donne quoi, cette promo-là?
Ça donne que tu appartiens au cœur des saints. C'est-à-dire qu'au paradis, tu es quand même un peu plus près de Dieu, qui est partout, on est d'accord. Non elle m'énerve, elle veut de la logique. Quand on est catholique, la logique est une chose et la théologique en est une très différente. La sainteté, en fait, c'est un truc égoïste, la sainteté, parce que la sainteté, ça nous sert à nous. Un saint ou une sainte, c'est quelqu'un qu'on peut prier. Tu vois, Christiane, par exemple, tes parents qui sont en train de brûler au purgatoire, eh bien, tu peux prier sainte Christiane qu'ils interviennent pour que tes parents arrêtent de rôtir au purgatoire. C'est ça l'utilité principale des saints et des saintes. C'est pas tellement pour eux, mais c'est pour nous, c'est qu'on peut les prier. Alors, pour en revenir quand même à notre histoire un peu politique là-dedans, donc Monseigneur Dupanloup, qui était l'un des évêques les plus célèbres de France et qui en plus était évêque d'Orléans, comme une belle surprise, eh bien, dès 1855, il dit « Jeanne d'Arc a agi selon la volonté divine ». Donc, il reconnaît bien que le procès ecclésiastique de 1431, eh bien, c'est complètement planté. Et puis, évidemment, quand Jeanne d'Arc est béatifiée en 1909, on est en France en pleine période, dit ce texte d'Hérodote, période dominée par l'exaltation de la nation et la haine de l'étranger, qu'il fût anglais ou allemand. Et le lendemain même de la cérémonie à Saint-Pierre de Rome, le pape embrasse le drapeau français. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hérodote l'explique. Son geste est inspiré par le désir de raccommoder l'Église de France avec les dirigeants anticléricaux de la Troisième République. En d'autres termes, il s'agit d'essayer d'éviter la séparation de l'Église et de l'État. Alors, tout d'un coup, eh bien, l'Église catholique fait donc un demi-tour à 180 degrés. Et attention, là, il y a une statistique stupéfiante. Près de 30 000 églises se dotent d'une statue de la Bienheureuse. Alors, c'est d'ailleurs, je rappelle que je suis guide pour les touristes, donc il m'arrive malheureusement d'emmener les gens dans les églises extrêmement souvent. Et je dois avouer que je me trompe sans doute, mais je ne connais pas d'église à Paris qui n'a pas quelque part une statue de Jeanne d'Arc. Il doit y en avoir quelques-unes, mais la quasi-totalité ont une statue de Jeanne d'Arc. Alors non seulement elle va être canonisée le 16 mai 1920, mais deux ans plus tard, elle est même carrément proclamée patronne secondaire de la France. Car quelle est la patronne principale de la France? Eh bien, c'est la Vierge Marie. Depuis le vœu de Louis XIII. Alors pourquoi est-ce que Louis XIII avait fait un vœu? C'est parce que Louis XIII, il était un peu homosexuel sur les bords, il n'avait pas envie de coucher avec sa femme, donc ça, pendant 28 ans, il ne couche pas avec sa femme, donc il n'y a pas d'héritier, et on va le pousser à faire un vœu pour qu'il ait un héritier. Il va marcher avec le truc plutôt que d'admettre publiquement qu'il est homosexuel. Et un jour de pluie, Richelieu va lui dire « Votre Majesté, vous êtes juste devant le palais de la Reine, faites-y un tour ». Et ce sera la naissance, 9 mois plus tard, de Louis XIV. Alors, ça c'était donc un texte un peu qui essaie de justifier l'attitude de l'Église catholique. Mais je conseille d'aller voir sur Retro News, le site de la Bibliothèque nationale de France, un texte de William Blanc, un auteur que nous connaissons bien parmi les libertaires et les anarchistes. Jeanne d'Arc, une canonisation très politique. Et bien entendu, c'est un texte qui nous décrit eh bien, le combat entre d'un côté les catholiques qui essaient de dire Jeanne d'Arc, eh bien, c'est une sainte, c'est une justification d'une France monarchiste où l'Église et l'État doivent être unis. Et à un moment, ils vont carrément dire un truc absolument sidérant. Alors vous êtes prêts ? La pucelle d'Orléans boutant l'anglais hors de France préfigure, selon eux, alors eux les monarchistes, les catholiques, leur lutte contre les juifs, qu'ils accusent d'être des agents de l'étranger et de la franc-maçonnerie athée, propos que combattent évidemment les journaux progressistes. Alors ça, quand même, je dois avouer que c'est assez étonnant. Et alors, ça devient tellement délirant que vous avez entendu parler de M. Drumont, l'abominable antisémite de la fin du 19e siècle, qui avait créé ce journal, qui avait un beau titre et qui était évidemment ignoble, c'était la Libre Parole. Dans la Libre Parole, eh bien, on va avoir un long délire où Jeanne d'Arc a été persécutée par les Juifs et par les Templiers. Alors, évidemment, les Templiers, excusez-moi, mais ils ont été massacrés.
Ils ont été liquidés, déjà.
Liquidés 200 ans plus tôt. Enfin, on est en plein délire. Et là-dedans, évidemment, Drumont dit que le combat pour une Jeanne d'Arc populaire, c'est un combat des francs-maçons et que les francs-maçons sont les héritiers des Templiers et que donc ils sont les héritiers des Juifs parce que les Templiers étaient tenus par les Juifs. Vous me suivez toujours?
Mais ça, n'importe comment, il n'y a pas de raison. Hein, on peut continuer comme ça longtemps.
On peut continuer
mais
comme
oui,
ça.
Mais oui, il est le cadavre.
Pardon?
Le cadavre brûlé, il est devenu quoi?
Alors, une autre chose avec ce cadavre brûlé, merci de me le rappeler, il y a à nouveau quelque chose qui fait quand même penser que cette histoire d'exécution n'est pas très nette. Le cœur n'a pas pu brûler. Ah bah oui, c'est le cœur d'une sainte. Hein, donc le cœur d'une sainte, ça ne peut pas brûler, c'est bien connu. Donc on est là avec un bûcher qui est censé être un bûcher public, d'une femme qui a été une chef d'armée, s'est entourée par des centaines de soldats anglais, et tout d'un coup, non, le cœur ne brûle pas. Ouais, bon, moi je veux bien, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, je suggère que nous terminions cette analyse du mythe de Jeanne d'Arc par tout d'abord une considération, on va dire, anthropologique. L'une des raisons du succès du mythe de Jeanne d'Arc, quelle que soit la forme qu'il a prise, que ce soit la forme alors délirante des antisémites, pas beaucoup moins délirante du catholicisme, ou de sa forme héroïne populaire de la gauche anticléricale, dans tout ça, le cœur quand même de la question, c'est que c'est une femme qui prend un rôle d'homme, et qui en plus prend des habits d'homme, et qui va, et quand, et en plus un rôle d'homme, alors vu pour l'époque comme vraiment un rôle absolument impensable pour une femme, non seulement elle est une guerrière, mais en plus elle est le chef de guerriers. Et donc on a là évidemment quelque chose de très 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 embêtant, par exemple pour l'Église catholique, parce que la France, fille aînée de l'Église, la monarchie support de l'Église catholique, eh bien elle est sauvée par une femme qui prend un rôle d'homme. Et on peut se demander également si le quelque part inconsciemment, si le soutien apporté par la gauche anticléricale de l'époque à l'idée d'une Jeanne d'Arc bergère, fille du peuple sauvant la nation, quelque part, il n'y avait pas une espèce de proto-féminisme, d'idée qu'une femme peut, elle aussi, assumer des rôles d'homme.
Non, mais non, elle était juste exceptionnelle.
Voilà, hein.
Tu rigoles, attends, voilà. Le patriarcat, alors, quand même, un peu.
Alors, justement, là-dessus, quelle était justement l'astuce qui permettait de dire « Ah, mais non, non, elle était exceptionnelle, tout à fait pas normale ?» Eh bien, c'est le fond de l'affaire. Elle était vierge, souvenons-nous. On l'appelait la pucelle. Alors attention, la pucelle au Moyen-Âge, ça veut d'abord dire la jeune fille. Il se trouve que ça veut aussi dire vierge, mais ça veut d'abord dire la jeune fille. Néanmoins, pendant le procès, le premier procès en condamnation, on est allé vérifier que Jeanne d'Arc était bien vierge. Et pendant tout ce procès en condamnation, mais après, pendant le procès en réhabilitation, il a été lourdement insisté que tous ces soldats qui l'ont vue parfois un peu déshabillée, parce qu'il fallait bien qu'elle change de vêtements, qu'elle dorme, etc., qui l'ont vue nue, tous insistent, « Ah non, 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 jamais je n'ai ressenti le moindre désir pour elle. » Et alors là, c'est l'autre livre dont je voulais parler, le livre de Marina Warner, en anglais « Joan of Arc, The Image of Female Heroism »,« Jeanne d'Arc, l'image de l'héroïsme féminin ». Eh bien, c'est que, parce qu'elle était vierge, elle n'était pas entièrement femme. C'était ça le cœur du mythe. C'était pas une femme normale. C'était une vierge. Les vierges, c'est pas encore complètement des femmes. D'autant plus qu'il y a quelque chose de tout à fait surprenant, c'est qu'à un moment, eh bien, dans ces procès, on va dire, mais, alors on va le dire selon le langage de l'époque, mais je traduis, elle avait pas ses règles. Ah, une femme qui a pas ses règles. Donc une femme qui n'a pas cet épanchement de sang terrifiant, qui devrait la tuer et qui ne la tue pas. Donc si elle n'a pas ses règles, si elle est vierge, c'est donc qu'elle n'est pas une sorcière, c'est donc qu'elle est bien envoyée par Dieu. Et c'est là la thèse, alors très bien développée longuement par Marina Warner, c'était que cette virginité réelle ou prétendue, ou en tout cas cette virginité rendue extrêmement publique, eh bien c'était l'une des explications de son succès auprès des soldats d'une part, et ensuite auprès du peuple. Et donc on a là un exemple tout à fait étonnant d'un mythe extrêmement puissant et qui est allé dans toutes les directions. Et je voudrais terminer en citant juste la chose qui la plus marrante sur l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est le livre de Voltaire, La Pucelle d'Orléans. Alors c'est un livre en, je crois, 15 ou 18 chants, 20 chants, 20 chants. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il fait de Jeanne d'Arc l'exact inverse, une demoiselle qui est quand même un petit peu travaillée par le désir. Et comme nous le savons, donc, eh bien, son collègue comme chef d'armée, c'était le chevalier Dunois. Alors voici ce qu'écrit Voltaire. Du coin lascif d'une vive prunelle, Dunois lorgnait malgré lui la pucelle. Mais il savait qu'à son bijou caché, de tout l'État, le sort est attaché, et qu'à jamais, la France est ruinée, si cette fleur se cueille avant l'année. Il étouffait noblement ses désirs, et préférait l'État à ses plaisirs. Et cependant, quand la route mal sûre de l'âne saint, parce qu'elle est censée être sur un âne en chevauchant à côté de Dunois, de l'âne saint faisait clocher l'allure, Dunois ardent, Dunois officieux, de son bras droit retenait la guerrière. Et Jeanne d'Arc, en clignotant des yeux, de son bras gauche étendu par derrière, serrait aussi ce héros vertueux, dont il advint, tandis qu'ils chevauchèrent, que très souvent leurs bouches se touchèrent. Pour se parler tous les deux de plus près, de la patrie et de ses intérêts.
Démolissons tout, détruisons l'ancien monde, effaçons-en les traces. Pour que le nouveau puisse naître, cette colonne qui se dresse, si elle tombe aujourd'hui, c'est qu'elle célèbre les brutes et la barbarie. Elle lance des fleurs aux militaires et fait bander les vainqueurs qui toujours piétinent les vaincus. Démolissons tout, détruisons l'ancien monde, effaçons-en les traces, pour que le nouveau puisse naître. Cette colonne nous crache à la face son bronze, célébrant vaniteuse des orduriers publics, glorifiés, célébrés. Pour trop d'éternité, encore couvert du sang des esclaves et des valets. Démolissons tout. Bienvenue au nouveau monde. Que les valeureux se lèvent et vivent enfin leurs rêves. Que la solidarité soit érigée en loi. Que l'égalité s'éprouve entre toutes, ces monuments qui rappellent les violences du passé seront sacrifiés pour réinventer.
C'était Maï Mitchell et Dominique Grange qui chantaient La colonne Vendôme. Et maintenant, maintenant. Les infos du Proton.
Pour commencer, la noix d'honneur du canard. Attribué à l'eurodéputé Raphaël Glucksmann du micro-parti Place Publique pour ce tweet. Il déclare « En se prosternant pendant 20 ans devant les régimes russes et chinois, les pseudo-réalistes qui nous dirigent n'ont pas seulement trahi nos principes, ils ont aussi bradé notre souveraineté. » Et le canard de rajouter « Faut-il rappeler que c'est le même Glucksmann qui, lors des dernières élections législatives, a soutenu Jean-Luc Mélenchon, malgré ses divergences immenses avec lui sur les sujets plus que fondamentaux, comme celui de la prosternation de Méluche devant les régimes russes et chinois.
Et rappelons par ailleurs ce qui se passe en ce moment avec Twitter, où Elon Musk
l'abominable félon Musk est en train de, à la fois de détruire Twitter et de faire revenir le charmant Donald Trump.
Le mur du son du canard enchaîné, franchi avec aisance par le député EELV, par le député, oui, Sandrine Rousseau, de retour de la manifestation contre le méga bassine de Sainte-Soline. La professeuse à l'université de Lille est revenue sur les votes de cette assemblée au moment où brûlaient les forêts du sud-ouest. Il déclare, BFM TV, « Nous avions le gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions, et le canard de Rachoudé et les congusaisons qui neutrons, qui hortons, pardon. » Michel Sardou annonce son retour sur scène en 2023, après avoir pourtant fait ses adieux en 2021, interrogé par Le Parisien, il affirme avoir été poussé par son épouse. « Je ne voulais pas revenir, mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère. Elle m'a fait un chantage. Avec au moins 33 dates prévues, elle n'a pas fini de le faire chanter. » Silvio Berlusconi, qui a réussi à se faire élire au Sénat, va-t-il pourrir le mandat de son allié Gloria Meloni, pardon. Dans un enregistrement qui a fuité, Berlu raconte que, pour ses 86 ans, Poutine lui a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre très gentille, avant que lui-même réponde avec des bouteilles de Lambrusco et une lettre tout aussi gentille. De quoi miner sérieusement la crédibilité de l'Italie sur la scène européenne, alors que Giorgia Meloni a toujours fait de son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN une ligne forte de son programme politique. Et le canard de rajouter, Giorgia va commencer à le trouver un peu chianti. Le changement climatique menace les droits fondamentaux de 1 milliard d'enfants. Dans certaines régions, la température deviendra insoutenable sous la soutane des prêtres. Les Français boivent de moins en moins de vin. Ils n'ont plus besoin de ça pour taper sur leurs femmes. Les contrôles d'identité ont dû être rapides à l'entrée de ce théâtre de Tokyo, où les 178 invités s'appelaient tous Hirokazu Tanaka, réunis pour battre le record détenu jusque-là par 164 Martha Stewart. Et pour réunir les Jean Martin, prénom le plus donné depuis 1900 et nom de famille le plus répandu en France, on essaie la Comédie Française ou le Stade de France. En Afghanistan, le porte-parole du ministère de la Promotion et de la Vertu et de la Répression du Vice fait savoir que les salles de sport sont désormais interdites aux femmes. Cette décision est ainsi motivée. Les entraîneurs sont des hommes et la plupart des salles étaient mixtes. Le corps des femmes ayant disparu sur la burqa, elles peuvent bien se passer de sport.
Il serait temps d'envoyer une petite Jeanne d'Arc en Afghanistan.
Évoquant l'ambiance au sein du PS en prévision du congrès de janvier 2023, le premier secrétaire, Olivier Faure, a eu ce mot. « C'est le moment où on se renifle. C'est ce que font les chiens et ils ne finissent pas forcément par sortir les crocs, sauf quand ils ne peuvent plus se piffer. » Theresa May, ex-première ministre britannique, n'a aucune envie de rempiler. Selon Challenge, elle préfère de loin sa vie de députée qui lui offre des à-côtés gourmands. Elle a inauguré fin octobre une chocolaterie Chocolat Fort chosophilique dans sa circonscription à l'ouest de Londres. s'exclamant « Quel business merveilleux !» Et le canard de rajouter « C'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. » Les policiers péruviens, qui ne manquent pas d'imagination, ont profité de Halloween pour arrêter des trafiquants de drogue. Les agents étaient déguisés en super-héros Avengers. Sur des images, on voit ainsi plusieurs fonctionnaires déguisés en Spider-Man, Captain America, Loki, Black Widow et encore Thor. Et le canard de rajouter, ont-ils mis la main sur la coque-bas de gomme ou sur le super-héros ? De l'ex-ménique socialiste Jean-Yves Le Drian, dans le JDD, cette réflexion au sujet des mi-termes, élections de mi-mandat aux États-Unis. Il déclare « Donald Trump est un fardeau pour les Républicains. En ce qui concerne les fardeaux, le PS en connaît un rayon. » Une start-up française récupère l'urine humaine pour en faire de l'engrais. Si les tomates que vous mangez l'été prochain ont un goût de Cronenbourg, vous saurez pourquoi. Le robot Ploto a fait sensation au salon Equip Hotel à Paris, si on en croit les échos. Destiné à seconder les serviteurs en portant les plateaux. Il se pilote pour tablette ou à la voix, sur tablette et à la voix. Sa vitesse a été ajustée pour qu'il n'inquiète pas en allant trop vite, ni n'agace en se montrant trop lent. Accepte-t-il des pourboires en bitcoin ? Les braqueurs ne sont pas forcément des hors-la-loi. Au Liban, selon l'Express, les attaques de banques constituent un casse-tête inédit pour la justice. Comment appréhender ces actions pénalement répréhensibles alors que les banques en infraction ne sont pas inquiétées ? Les restrictions bancaires imposées aux Libanais depuis la fin 2019 sont en effet illégales. Conclusion, mieux vaut virer les élites corrompues que de l'argent sur son compte.
Juste un petit commentaire par rapport à l'urine qui est utilisée comme engrais. Je ne sais pas, il faut choisir entre les pesticides et puis l'urine, au choix, vous choisissez. Oui. L'urine, je vais dire que c'est un petit peu, c'est pour le compost, quoi.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, okay. Mais c'est une blague.
Non, non, mais simplement,
avec
c'était
humour,
pour,
bien sûr,
pour en rajouter un petit peu. Eh bien... est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est la revue mensuelle, Ciné Mensuelle, a des problèmes de sous, donc si vous pouvez l'aider, si vous avez un peu de sous, vous pouvez les aider. D'abord en achetant le numéro de ce mois-ci, hein, et ensuite à l'intérieur de ce numéro, il y a un petit mode d'emploi pour envoyer des sous à Ciné Mensuelle. Qu'on veut garder ciné qu'on a vu dans le studio il y a certaines années, qui était très sympa. Et en plus, ce journal est super sympa.
Et en plus, il soutenait Radio Liberté.
Bien sûr.
Et pour ajouter une dernière chose qui n'a strictement aucun rapport avec tout ça, mais j'ai vu ça aujourd'hui, il semblerait que Macron veuille faire passer un changement du remboursement des indemnités chômage. Dès que le chômage dépasserait 9%, eh bien, on sucrerait de 25%, donc du quart, les indemnités chômage versées aux gens. Parce que c'est bien connu, les gens ne sont au chômage que pour profiter des indemnités.
Ah ouais.
Ce sont tous des parasites,
c'est tout bien connu. Ouais.
Oui, puis il faut le ajouter une chose, il y a une chose qu'il dit aussi, et qu'il répète même assez souvent, c'est que l'argent, c'est pas magique, quoi.
Oui.
Hein, et donc, puis il y a la dette, hein. Non mais attendez, soyez un peu citoyen, quoi. Faut quand même pas exagérer.
Alors aujourd'hui, nous avons une chrétienne catholique, puis économique. Donc c'était bien le proton sur Rebif. Alors moi, je suis Jean-Manuel et nous avions Lulu pour nos informations et Christiane à la technique et aux commentaires théologiques.
Voilà, c'est ça. Et maintenant, on va passer donc notre coup de cœur. aujourd'hui, puisque évidemment Michel Buller nous a quittés, donc on est quand même toujours un peu triste, donc on le lâche pas comme ça, on écoute en tout cas ses chansons, et puis je pense pas qu'il nous écoute parce qu'il en a rien à foutre là où il est, ça j'en ai pas là, et ben, en tout cas nous on a ses chansons.
Elle avait les lèvres pincées, un anus de gallinacée. Moi je rangeais ma gratte, mes affaires, à la fin d'un concert. L'ai vu me parler d'une de mes chansons où j'avais dû dire bite et con, peut-être même couille en fin des mots, qu'on trouve dans des dicots. Je pense qu'elle s'était d'ailleurs trompée d'endroit et de soir. Les gonzesses sont ailleurs, ça vient rarement me voir. Bref, elle m'a dit ceci, comme si j'avais été une crotte sur son tapis, un cheveu gras dans son thé. Dans vos couplets sommaires, vous misez au plus bas. Monsieur, vous êtes vulgaire, je ne vous salue pas. La tournée des talons, toute fière et toute seule. Moi je lui ai dit, ah non, hé, hey, tu te fous de ma gueule. Dire foutre et cul, c'est peut-être oser, tout ce que tu veux, laisse te saler. Mais la vulgarité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple mettre sans broncher 1000 ouvriers sur le pavé. Tandis qu'en bourse, tes actions montent et ne pas en avoir honte. C'est comme à Managua d'offrir aux filles Havre. En zone franche, là-bas, qu'un salaire d'esclave. C'est réduire à plus rien l'aide minable déjà. Que la vieille qui tend la main espère chaque mois. C'est limer les crédits de l'école publique. Et tant pis pour qui vit dans des quartiers merdiques. C'est dire comme certains, celui qui est dans la misère, c'est au fond qu'il le veut bien. Ça c'est vulgaire. Vulgaire, tu vois, pour moi c'est pas bouffer ses nouilles avec ses doigts, péter au bal de la duchesse ou te foutre la main aux fesses. Mais c'est répandre l'idée abjecte que la médecine ça s'achète, qu'elle a donc une pour les rupins, puis une autre pour les chiens. C'est polluer les têtes, nos rejetons mignons, avec une culture faite pour piquer leur pognon. C'est leur faire croire aux petits sans défense et tout beau. Le bonheur c'est Barbie, Coca, Mickey, McDo. Vulgaire c'est m'imposer sous couvert de commerce, de la barbaque bourrée d'hormones les plus diverses. C'est breveter la vie, prendre l'eau bientôt, l'air, pour en tirer profit. Ça c'est vulgaire. Vulgaire c'est titrer à la une sur le mariage ou la fortune des stars dents blanches et peaux bronzées dans leur ghetto doré. C'est affirmer haut et dur que ce monde conduit par des ordures est le seul possible désormais et que j'ai qu'à m'écraser. C'est la raison d'être Thatcher et Pinochet, l'Afrique qui se noie, le Tibet sacrifié, sont les mafias qui rident toutes leurs dents en or, et c'est la barbarie de la peine de mort, sont les enfants d'Irak, de Gaza, de Timor, qu'on étouffe et qu'on traque depuis 10 000 aurores. C'est enfin commencé ce joyeux millénaire, avec nos mains tachées, en acceptant la guerre, et l'homme tel qu'il est, sans refus, sans colère, sans l'envie de gerber, ça c'est vulgaire.
C'était le Proton sur Bif, sur deux livres, sur Jeanne d'Arc, La fabrique de Jeanne d'Arc de Thierry Deshayes aux éditions Atlantes, et Marina Warner, Joan of Arc, The Image of Female Heroism. Et on a même cité La Pucelle d'Orléans, un classique de Voltaire. Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération. Anarchiste sans maître, sans publicité, sans évêque bizarroïde, avec Christiane à la technique et Lulu aux infos, et même Jean-Manuel dans un coin bizarre.
Et on vous retrouve avec Christiane samedi prochain à
13h. Attends, redis-le parce que... Pardon. Vas-y Lulu.
Vas-y Lulu.
Oui, je dis qu'on vous retrouve avec Christiane pour les Chroniques Rebelles samedi prochain à 13h30.
Au revoir.
Salut. Au revoir tout le monde.